Du samedi 3 juin au vendredi 9 juin 2017, à 10h et à 13h, retrouvez sur Couleur FM les candidats aux élections législatives de la 6e et de la 10e circonscription de l'Isère. Ces émissions sont animées par Thierry Borde.
Voilà, Couleur FM spéciale élections législatives, les dimanches 11 et 18 juin prochains, vous aurez à vous prononcer pour choisir nos futurs députés dans une situation, dans un contexte politique assez complexe cette année, après les présidentielles qui ont vu l'élection d'Emmanuel Macron. Et tout au long de cette semaine, sur Couleur FM, nous allons vous proposer de mieux connaître vos candidats à la députation, aux candidats aux élections législatives pour les 6e et 10e circonscriptions de l'Isère. Donc, cette fois-ci, nous allons accueillir un candidat et sa suppléante pour la 10e circonscription de l'Isère. Il s'agit de Monsieur Alain Breuil, donc, qui se présente pour le Front National, et de sa suppléante, Madame Nathalie Germain. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, monsieur.
Et merci beaucoup d'être venu nous voir pour vous présenter, pour présenter ce que vous avez envie de défendre aux auditeurs de Couleur FM, aux électeurs de la 10e circonscription. Pour commencer cette présentation, j'aimerais simplement commencer par un petit portrait de chacun d'entre vous. Vous présenter, dire qui vous êtes, d'où vous venez.
Donc, je m'appelle Alain Breuil, j'ai 58 ans, je suis de formation ingénieur arts et métiers, puis j'ai également fait Sciences Po, mais je tiens à dire que j'ai travaillé plus de 30 ans dans l'industrie, notamment en région Rhône-Alpes, donc je ne suis pas du tout un politicien professionnel, même si je suis aujourd'hui conseiller régional et si je suis par ailleurs conseiller municipal à Grenoble.
Madame Nathalie Germain.
Donc, moi, Nathalie Germain, j'ai 50 ans, célibataire, je suis de la circonscription de la Tour du Pin. Je n'ai pas de mandat électif. J'ai été présentée déjà au départemental et au régional.
D'accord. Alors, vous venez de me dire, pardon, je rebondis directement, que vous êtes conseiller municipal à Grenoble. Alors, évidemment, la première question qui se pose pour tout le monde, c'est comment on fait ? Vous habitez où ? Comment vous faites ?
Donc, c'est très simple. Vous savez, la circonscription en France, c'est toute la France. Pour moi, il y a 577 circonscriptions. Et la députation, c'est une élection un peu particulière qui n'est pas vraiment liée à un territoire, qui est une circonscription d'élection. Et je rappelle quand même que le député doit accomplir trois missions principales, voter les lois, puis éventuellement en abroger aussi, parce qu'il y a beaucoup de lois inutiles, voter bien sûr le budget de l'État et contrôler l'action du gouvernement. Donc ça, ce n'est pas lié fondamentalement à un territoire, même si effectivement nous sommes élus sur une circonscription. Et vous reconnaîtrez avec moi que la 10e circonscription de l'Isère est une circonscription qui n'a vraiment aucune caractéristique propre, aucune personnalité. On va de l'Est de Lyon, les banlieues de l'Est de Lyon, et on va jusqu'aux marges de Savoie. Même la ville de Bourgoin-Jallieu, où nous sommes aujourd'hui, est coupée en deux. Donc vous voyez, c'est une circonscription qui n'a pas d'identité propre.
La circonscription, pas le territoire.
Oui, la circonscription n'a aucune identité propre.
Oui, effectivement, et Bourgoin-Jallieu, vous le disiez, est coupé en deux entre deux circonscriptions.
Tout à fait.
Alors, il est vrai, vous avez rappelé la règle de ces élections législatives, pour que tout le monde soit bien conscient de la chose. C'est important, c'est une élection qui se passe à dimension locale, avec des candidats locaux, mais c'est une élection à enjeu national, c'est-à-dire que les députés ne représentent pas directement leur territoire, mais votent pour des politiques nationales.
Même si beaucoup de députés passent beaucoup de temps dans leur circonscription, ce que l'on peut parfaitement comprendre, encore une fois, le député, ce n'est pas forcément la super assistante sociale ou le super avocat de sa circonscription. Ouais, il faut le dire en français, le député est là pour ces trois missions fondamentales que je vous ai rappelées tout à l'heure. Et c'est vrai que l'on peut passer son temps dans sa circonscription d'origine à essayer de conserver son poste ad vitam aeternam. Il est clair qu'en ce qui me concerne, j'ai 58 ans, donc je ne cherche pas à faire 15 mandats de suite. J'en ferai un, j'en ferai deux, et ça sera suffisant.
Alors, le député n'est pas là pour défendre toutes ses causes de son territoire. Néanmoins, ça se passe quand même souvent comme ça. Les députés sont relativement proches de leur territoire, ne serait-ce que par calcul politique, évidemment, parce qu'il faut bien se faire réélire. Vous n'avez pas peur d'en pâtir un petit peu ?
Oh, pas du tout, pas du tout. Moi, j'habite l'Isère, j'ai une maison en Isère, j'ai travaillé en Isère, je suis dans l'Isère depuis plus de 15 ans, donc c'est effectivement un territoire qui m'est très cher, mais comme tous les territoires de France. Si demain on me disait « tu vas dans les Landes de Gascogne », j'irai dans les Landes de Gascogne.
Très bien. Alors, puisqu'on en est dans la géographie, on va passer en géographie plus politique ou plutôt politicienne. Et j'ai envie de vous demander, à vous comme à tous les autres candidats, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Où est-ce qu'on en est ? Donc, mais tout d'abord, une Voilà, votre vision générale de ce qui vient de se passer, les mois qui viennent de précéder.
Eh bien, il est sûr qu'on vient d'assister à la mise à mort des deux principales forces politiques qui vivaient en France, qui cohabitaient en France depuis des dizaines d'années. Cela dit, je crois que le phénomène Macron n'est pas vraiment une surprise. On a pu voir déjà ce qu'il a fait pendant les 2 ans où il a été au ministère de l'Économie et des Finances. Et je peux vous dire que son action est déjà calamiteuse. Il s'est attaqué, vous le savez, aux turbines Alstom, il s'est attaqué, on en a parlé, à SFR, il s'est attaqué à différentes professions par la voie de l'ubérisation, par la voie des cars en particulier, qui nous amène aujourd'hui à faire en sorte que la SNCF se concurrence elle-même avec des prix qui sont 4 à 5 fois inférieurs au prix du train. Je ne sais pas si vous le savez, mais un billet de train entre Lyon et Grenoble, ça coûte à peu près 21,50 €. En car, Macron, c'est 5 €. Donc actuellement, il nous a déjà montré ce qu'il souhaitait faire. Il souhaitait détruire le tissu social, industriel et politique français. Donc nous ne le prenons pas pour un adversaire de petite taille, ça fait aucun doute, mais on sait déjà le mal qu'il a fait en France.
D'accord. Alors on reviendra sur les questions plus de fond après, mais par contre politiquement, vous dites que voilà, on assiste à la destruction de deux grandes familles politiques. Le Front National n'est lui-même pas sorti tout à fait indemne de tout ça. Il y a des petite discussion.
Non, il y a évidemment des discussions parce qu'on est un parti avec des dizaines de milliers d'adhérents. On a de nombreux élus maintenant aujourd'hui. Il y a bien sûr des discussions entre nous, mais le Front National se porte globalement bien, même s'il y a quelques désaccords sur des points qui sont des points importants, comme l'euro, par exemple.
Vous êtes un militant de très longue date du Front National.
30 ans. J'ai pris ma carte en 1987. Voilà. J'ai connu l'époque où, effectivement, avoir pour une fois un interview d'une minute avec un journaliste, c'était extraordinaire. On ne parlait jamais de nous. On essayait de faire...
Il faut que je vous rende l'appareil. Ça fait plusieurs années que j'essaye d'avoir le Front National, quel que soit son représentant ici, hein, pour les élections. Et effectivement, c'est nouveau, mais c'est la première fois que vous acceptez. Donc, on vous en remercie.
Ah ben non, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal.
Voilà. Mais alors, du coup, ma question, c'est vous qui avez adhéré au Front National en 1987, c'était Jean-Marie Le Pen, c'était la grande époque de Jean-Marie Le Pen avec ses éclats médiatiques. Le contexte a changé, les idées politiques de Marine Le Pen ne sont plus tout à fait celles de son père. D'ailleurs, leur conflit le prouve régulièrement. Comment vous avez évolué avec elle?
Je ne sais pas s'il faut dire qu'on a évolué avec l'un ou avec l'autre. Disons que Marine Le Pen cherche à être beaucoup plus consensuelle dans son approche. Elle cherche à choquer le moins de gens possible, ce qui est bien normal. Notre vision à nous, c'est d'aller au pouvoir pour essayer de remettre un peu la France sur les rails. Donc il est clair qu'on ne va pas heurter les gens pour le plaisir de les heurter. On ne souhaite pas les heurter, on ne veut pas les heurter. Ce n'est absolument pas notre conception de la politique. Mais il est vrai que nous, on ne fait pas de la politique pour s'occuper et pour s'amuser. J'ai travaillé pendant 30 ans dans l'industrie en région Rhône-Alpes. Je fais de la politique aujourd'hui pour défendre mon pays, pour défendre les valeurs de notre pays. Et je vois malheureusement que notre pays est en pleine déroute économique en particulier.
Alors, ne pas heurter les gens, ça veut dire que il y a un discours, mais il y a des pensées qui peuvent être un petit peu différentes?
Non, Marine Le Pen a justement fait le ménage, entre guillemets, et les gens qui étaient susceptibles de ne pas toujours tenir des propos bien corrects ont été immédiatement écartés, parce qu'on ne se reconnaît pas comme un parti d'extrême droite, c'est très clair. Nous sommes un parti de droite nationale, c'est vrai que pour nous la nation...
Avec un projet de gouvernement maintenant.
Avec un projet de gouvernement, nous faisons de la politique pour gouverner, pas pour s'occuper.
D'où votre présence à la radio
voilà,
cette année.
Je vous en remercie.
Voilà. Alors, ben justement, les questions de fond, vous avez commencé à parler d'économie, notamment l'économie, difficile d'aborder la thématique cette année sans reparler d'Europe. Donc, je vais vous faire peut-être redire un petit peu ce que vous pensez de l'Europe. Et puis, on déclinera au niveau économique.
Bien sûr. Il est évident que l'Europe, la France fait partie de l'Europe. On ne va pas découper la géographie de la France et nous mettre quelque part sur un continent asiatique. C'est clair, nous sommes des Européens, mais nous n'acceptons pas cette conception faite aujourd'hui par notamment des comptables bruxellois, il n'y a pas d'autre mot, par des commissaires bruxellois qui sont des gens non élus et qui décident pour nous. Nous voulons retrouver toute notre souveraineté au plan économique, au plan social, au plan de qui peut rentrer chez nous, qui peut ne pas y rentrer. Nous n'acceptons pas cette Europe telle qu'elle est faite aujourd'hui. Mais évidemment, nous sommes des Européens. Moi, pour ma part, j'ai dû visiter une bonne quinzaine de pays d'Europe, y compris les pays de l'autre côté du rideau de fer, quand le rideau de fer n'était pas encore tombé. Je me rappelle de voyages en Hongrie et en Yougoslavie en particulier. Donc je suis Européen, je parle anglais, je me débrouille en espagnol, je me débrouille en allemand, donc je suis européen, mais cette Europe de Bruxelles, pour le moment, elle nous a surtout montré sa totale inefficacité.
Imaginons que vous fassiez partie d'une future majorité parlementaire. que fait notre pays avec l'Europe, du coup? Parce que, pareil, dans les, enfin, de ce que disait Marine Le Pen ces derniers temps, peut-être ça évolue un petit peu.
Mais écoutez, je crois qu'il faudra que les choses évoluent, parce que de toute façon, l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui ne fonctionne pas. C'est une Europe à deux vitesses. Vous avez l'Allemagne, avec deux, trois satellites comme l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas, qui fonctionnent globalement bien, qui sont très contents d'être dans cette Europe. Et puis vous avez les autres pays, notamment les pays du Sud, que les gens parlent, dont on parle avec un peu de condescendance, en les appelant les pigs, pour Portugal, Italie, Espagne et Grèce. On les appelle les pigs, les cochons. Donc ces pays-là ne se rendent bien compte qu'ils ne font pas leurs affaires avec l'Europe d'aujourd'hui. Ces pays-là sont en train de dégringoler au plan économique, la France en tête. Il faudrait que les gens comprennent qu'aujourd'hui, la France est en train de tomber à la 8e place au monde des pays exportateurs. On a été doublé par la Hollande et maintenant, on a été doublé par la Corée du Sud. La Corée du Sud qui n'est ni dans l'euro ni dans l'Europe.
Et que faut-il faire ?
Ce qu'il faut faire, il faut essayer de renégocier un certain nombre de traités pour qu'effectivement les traités soient plus favorables globalement à la France. Et si effectivement on n'arrive pas à discuter avec nos partenaires européens sur un nombre de choses fondamentales comme notre souveraineté en termes national, en termes politiques, etc., si on n'arrive pas à reprendre un peu l'oxygène, il est clair qu'il faudra se poser des questions sur notre appartenance à l'Europe, puisqu'effectivement aujourd'hui, un pays comme l'Angleterre, qui n'est pas un pays mineur dans l'Europe, a décidé de quitter l'Europe. Et a priori, on nous explique que tout va très mal en Angleterre. C'est pas vrai. J'étais il y a encore 2 mois. J'ai pas trouvé de différence avec l'Angleterre il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans.
Est-ce que l'Angleterre souhaite sortir de l'Europe pour les mêmes raisons que vous souhaitez sortir de l'Europe ?
Oui, je pense que l'Angleterre souhaite retrouver son indépendance. Et nous souhaitons retrouver notre indépendance tout simplement parce que nous pensons que nous ferons une bien meilleure politique qui profitera beaucoup plus aux Français que si cette politique nous est imposée par les commissaires européens qui ne sont même pas des gens élus. Encore faut-il le rappeler et le rappeler aux gens qui nous écoutent.
D'accord. Et alors économiquement, l'Europe est totalement néfaste pour nous. Pourquoi ?
Ah ben l'Europe est néfaste pour la France, c'est absolument évident. Je ne sais pas si vous vous rappelez, depuis l'an 2000, nous sommes en déficit permanent du commerce extérieur et de plus en plus. Au mois de janvier 2017, en un seul mois, on a fait 13 milliards d'euros de déficit du commerce extérieur. Alors qu'en l'an 2000, on était à l'équilibre. Non, au contraire, l'Europe telle qu'elle existe fonctionne très bien pour certains pays comme l'Allemagne et ses pays satellites, mais ne nous rend aucun service. Il faut jamais oublier que la France donne entre 7 et 8 milliards de plus qu'elle ne reçoit de l'Europe. Cet argent, on en aurait bien besoin pour nos politiques à nous. Et donc, aujourd'hui, la politique européenne n'est pas la bonne. Nous voulons bien sûr faire des projets européens, mais sur des projets concrets, comme par exemple l'Airbus, la fusée Ariane ou des choses comme cela. Mais cette Europe administrative qui veut tout nous dire du matin au soir et du soir au matin, la moindre directive sur l'importation des caramels mous, ça tient en 50 000 pages, ça on n'en veut pas. Ça ne nous apporte rien.
J'ai envie de vous poser une question. Le Front National est un parti libéral ou antilibéral ?
On n'est ni l'un ni l'autre. On est un parti qui est d'abord national, qui pense à défendre l'intérêt des Français d'abord, tout simplement. Alors parfois, il faut être un peu libéral, et puis des fois, il faut aussi que l'État soit puissant. Vous savez, c'est pas antinomique. Keynes était un très grand économiste, il passait pas pour un hyper-libéral, il pensait que l'État devait avoir tout son rôle à jouer. Et il faut bien reconnaître que la France est un pays qui, depuis des siècles et des siècles, a toujours eu un pouvoir centralisateur assez fort. De Louis XIV à Napoléon, on va pas citer tous nos dirigeants depuis des siècles et des siècles, mais la France a toujours été un État assez centralisateur.
Alors passons à un autre domaine, peut-être sur des questions d'environnement, d'écologie. Quelles seraient vos positions, vos credos à ce niveau-là ?
Ah, c'est une question très délicate que vous posez, d'autant plus qu'ici nous sommes à Bourgoin-Jallieu, nous sommes près d'une entreprise assez connue qui s'appelle Photowatt, qui ne survit qu'actuellement qu'avec des subventions de l'EDF. Nous vivons dans un pays qui est nucléarisé à plus de 75% et j'ai commencé ma carrière professionnelle comme ingénieur d'essai chez Framatome. Donc je connais évidemment un petit peu le sujet. Donc aujourd'hui, les choses sont très claires. Nous avons un outil nucléaire, certains peuvent effectivement le critiquer, mais il nous permet d'avoir du courant électrique. Imaginez ce que serait un pays comme la France sans courant électrique. Donc il faut envisager à terme une transition pour sortir du nucléaire, mais pas promettre trop de choses trop rapidement, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on va remplacer nos 54 réacteurs nucléaires. Donc ça, c'est une question qui, pour moi, est déjà fondamentale. Je rajouterai ensuite que le Front National, on a toujours été des écologistes convaincus, en commençant par la défense de notre propre pays et des habitants de notre propre pays qui sont les Français. Alors il faut s'intéresser à toutes les petites bêtes qui vivent sur Terre, parce que la biodiversité, j'y crois. Mais bon, en France, il faut défendre aussi les Français.
Oui, mais je crois d'ailleurs que le Front National a fait un énorme travail ces dernières années sur, sur tout ce qui est notion écologique, etc.
Bien sûr.
Et s'est beaucoup rapproché justement de ces territoires. Vous positionnez plutôt pour une agriculture un petit peu moins productiviste.
Bien sûr, moins productiviste. Et là, vous soulevez quelque chose de tout à fait significatif. À côté de nous, il y a un pays formidable que j'adore, qui est la Suisse, qui taxe à l'importation ses produits agroalimentaires à hauteur de 50%. Pour une raison fort simple, c'est qu'ils veulent conserver à produire, à faire de la production suisse de nourriture, tout simplement, mais ils veulent le faire à leur échelle. Et vous comprenez bien qu'en Suisse, avec les montagnes qu'il y a, on ne peut pas avoir les rendements que l'on peut avoir dans la ferme des 30 000 vaches. Parce qu'en Allemagne, vous avez des fermes de 30 000 vaches, beaucoup plus qu'en France. Et les choses sont encore plus fraudées, parce qu'aujourd'hui, dans certains États allemands, la production de viande est quasiment un sous-produit de la production de méthane. On ne peut pas subventionner la production de porc, mais on peut subventionner la production de méthane. Donc on fait des méthaniseurs énormes qui sont abondamment subventionnés, et le sous-produit, c'est de la viande de porc, qui est produite dans des conditions discutables, mais qui arrive sur le marché à des prix défiant toute concurrence.
Et vous savez que chaque candidat a 20 minutes précise,
parce que
voilà, c'est la radio et le CSA existe, et donc on est voué à l'égalité pour chacun, et donc il nous reste à peu près 4 minutes. Est-ce que vous auriez quelque chose qui vous tient vraiment particulièrement à cœur à présenter aux auditeurs, qui serait vraiment représentatif de votre candidature?
Écoutez, moi je vous ai dit que j'étais ingénieur arts et métiers, je suis très inquiet de l'appauvrissement de l'industrie française. Pendant 30 ans, j'ai vu cette industrie, j'ai travaillé avec cette industrie, et on voit les entreprises qui déposent le bilan et qui sont mises en liquidation judiciaire les unes après les autres. On a eu Soprano, nous avons maintenant l'unité hermétique, enfin TQMC, ex-unité hermétique, c'est une entreprise que j'ai eue comme client. J'ai bien peur qu'un jour ou l'autre, ce genre d'entreprise connaissent le même sort que les gens de Whirlpool, qu'on décide de faire fabriquer ces compresseurs frigorifiques au fin fond de la Hongrie ou de la Pologne parce que le coût du travail est moindre. Et j'ai bien peur que de nombreuses entreprises françaises subissent un jour ce sort.
Donc la réponse pour vous, c'est davantage de protectionnisme?
C'est une forme de protectionnisme intelligent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas abandonner toute notre industrie. C'est pas possible. Parce que si on n'a plus d'industrie, on n'a plus de services autour, on n'a plus rien. Et ça, c'est fondamental.
D'accord. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Une dernière question. Vous savez que à Couleur FM, on est très, 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 très attaché à tout ce qui est culture, à tout ce qui est culturel. Quelle politique culturelle avec le Front National?
Alors là, je ne vais pas être objectif. Parce que j'ai une grande passion dans la vie, c'est la musique classique. J'ai fait du violon, j'ai fait du violon alto. J'en fais 3 à 4 fois par semaine, dans plusieurs orchestres, notamment dans le bassin grenoblois. Donc pour moi, ce serait beaucoup de musique classique pour tout le monde. Mais on va demander plutôt à Nathalie un petit peu ce qu'elle pense là-dessus, sur l'aspect culturel.
Je pense que pourquoi pas mal d'expositions aussi, que les artistes puissent se montrer un peu plus.
Mmh. Ouais. C'est pas suffisant pour l'instant?
Je pense pas, non.
Mmh. C'est une très bonne nouvelle en tout cas. Pour la musique classique, je vous préconise d'écouter toutes les semaines une excellente émission sur Couleur FM qui s'appelle Au fil des notes, qui est une émission extrêmement érudite sur tout ce qui est musique classique. Voilà. Mais la culture, c'est pas forcément c'est le domaine culturel, c'est le lien culturel, et c'est aussi peut-être aujourd'hui, on a parlé d'économie, de mondialisation, la culture, les cultures, le brassage des cultures aujourd'hui, Bourgoin, l'île d'Abo, etc. Ce sont des villes cosmopolites. Qu'est-ce qu'on fait?
Je n'ai rien contre le cosmopolitisme, mais il est clair qu'on ne va pas non plus chercher à faire en sorte de brasser d'office les gens contre leur volonté et sans leur demander tout simplement s'ils le souhaitent. Pour beaucoup, malheureusement, ce cosmopolitisme est plus vécu comme une contrainte. Alors c'est vrai que quand vous avez 10 ou 15 ou 20 millions d'euros dans votre compte en banque, vous pouvez aller de partout dans le monde, vous serez très bien vu de partout, vous irez dans les plus beaux hôtels et vous aurez une vision très enluminée, très enjolivée du cosmopolitisme. Mais malheureusement aujourd'hui, trop malheureusement aujourd'hui, on constate que ce brassage de population se fait quand même assez souvent dans la douleur. Vous savez, moi j'adore le vin rouge, ça c'est un très commun que j'ai avec M. Macron, je ne mélangerai jamais du Bordeaux et du Bourgogne dans mon verre. Ça, c'est pas possible.
Je vois. Voilà. Et alors, pour terminer, pour rappel, dans la 10e circonscription, il me semble que Marine Le Pen a fait un résultat assez considérable au premier tour de la présidentielle, ce qui est 28,2%.
Voilà, c'est cela. Et plus de 42
donc,
au deuxième tour.
Votre objectif à vous, c'est quoi?
C'est d'être élu. Alors là, c'est très clair. C'est très clair. Nous faisons campagne pour être élus. Bon, c'est pas la première fois que je me présente aux législatives. Je crois que c'était la cinquième fois. Souvent, je l'ai fait un peu par témoignage. Bon, là, maintenant, on se dit, et pourquoi pas nous? Ça pourrait changer un petit peu. Parce qu'il faut évidemment à l'Assemblée nationale une opposition qui soit franche avec M. Macron. Or, aujourd'hui, on se rend compte que M. Macron a piqué un peu à droite, un peu à gauche, un peu au centre. Il y a déjà des problèmes, manifestement, avec certaines personnes. Donc, il y aura besoin d'une opposition forte, convaincu et discipliné à l'Assemblée nationale. Et nous entendons bien incarner cette opposition.
Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Nous venons d'écouter Alain Breuil et Nathalie Germain, qui sont les candidats Front National pour l'élection législative des 11 et 18 juin prochains pour la 10e circonscription de l'Isère. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.